Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec, et c'est un événement, Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique Michel.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, je suis heureux de vous avoir. C'est un événement, je le dis, parce qu'on vous entend beaucoup. Votre livre a été numéro un des ventes et continue de faire beaucoup parler de lui. On vous voit beaucoup. Vous êtes ce qu'on appelle un anthropologue expert en santé publique, donc vous n'êtes pas médecin, spécialiste des déterminants de la santé, notamment. Alors, je dis, vous avez été sans doute l'un des premiers, je ne vais pas dire dans le monde, parce que je n'ai pas suffisamment de sources pour aller jusque-là, mais enfin l'un des premiers dans ce que l'on a entendu au moment du début de la pandémie et du confinement, à dire que c'était une erreur. Vous étiez, au tout début, plutôt marginal à cette époque.
Mais oui, de fait, et je le suis encore à certains égards aujourd'hui, mais de manière très paradoxale, si vous voulez, moi, mon métier, c'est d'évaluer les besoins de santé de la population et les réponses qui sont proposées pour voir si ces réponses répondent aux besoins ou non. Et donc, alors même que le domaine des épidémies infectieuses n'est pas mon domaine de spécialité, moi, je suis spécialiste des maladies non transmissibles, mais je sais comment aller chercher les bonnes informations au bon endroit. Et ce que j'ai découvert très vite, en effet, c'est que cela fait des décennies que l'on a renoncé à l'idée des confinements. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas et en fait, ça aggrave les choses. Et cette réalité que je vous indique est contenue dans tous les plans pandémiques qui ont été prévus, y compris celui de l'OMS en 2019. Et donc, on s'est trouvé dans cette situation extraordinaire où l'OMS en 2019 dit « il ne faut surtout pas confiner en cas d'épidémie respiratoire ». Et en 2020, dit « il faut faire des confinements partout ». Donc voilà, comme ce genre de motif m'intéresse, bah effectivement, je l'ai fait savoir et je me suis retrouvé quelque peu seul dans cette intention.
À cette époque, j'ai commencé par là pour présenter votre nouveau livre. Ça s'appelle « Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid ». Et comme le dit si bien le titre, c'est « l'autopsie d'un désastre ». On ne vous a pas entendu. Ensuite, il y a eu un grand mouvement de contestation. Là, vous étiez beaucoup moins seul, hein, contre le confinement, un ras-le-bol contre le confinement, ras-le-bol contre les mesures barrières, puis ensuite la vaccination. On pense encore que finalement, on ne pouvait pas faire autrement, on était désemparés, c'était un phénomène nouveau. Et vous, vous allez beaucoup plus loin en disant aux gens « non, vous vous trompez, vous leur faites crédit de beaucoup de choses, vous parlez bien de corruption ».
Oui, et de nouveau, moi, mon constat, il est simple. Il est de regarder ce qu'on avait prévu de faire et que disait la science et les bonnes pratiques en la matière. Est-ce que c'est ce qu'on a fait ou non ? Et puis, quels sont les résultats de ce qu'on a fait ? Et donc, comme vous l'indiquez, les gens ont de la peine à mesurer qu'on savait très bien comment gérer une épidémie respiratoire. Et en fait, il y a deux principes cardinaux. Le premier, c'est de laisser les médecins généralistes soigner les gens avec les médicaments qu'ils ont à disposition. Là, les généralistes, c'est le premier rideau de soins face à une épidémie, pour éviter qu'il y ait un flux de malades graves qui se dirigent vers les hôpitaux. Or, on a complètement fait exploser ce premier rideau de soins en interdisant aux généralistes de soigner les gens, ce qui est juste inimaginable. Et le deuxième principe cardinal, c'est de laisser la société vivre le plus normalement possible. Donc, pas de fermeture, pas de confinement, pas de masque, pas de système de traçage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et on le sait depuis 50 ans, quand on confine une population au sein de laquelle le virus a déjà circulé, on fait exploser le nombre de cas graves. C'est-à-dire que vous mettez en cluster des gens infectieux avec leur entourage, l'entourage se surinfecte et donc on est sûr de faire exploser la courbe. Donc la réponse qui s'est produite est totalement contraire à tout ce qu'on savait devoir faire. D'ailleurs, je rappelle souvent, la Suède a dit « nous n'appliquerons que des mesures dont on est certain scientifiquement qu'elles soient utiles et la seule qui le soit, c'est de se laver les mains ». Donc la Suède s'est abstenue de toutes les mesures de contrainte qui nous ont été imposées en France, en Suisse et en Belgique et sort avec les meilleurs résultats de toute l'Europe. Donc c'est une confirmation, si besoin était, qu'on a marché sur la tête. Et donc le motif suivant, vous le soulignez à juste titre, c'est comment expliquer qu'on ait jeté aux orties toute la science et les bonnes pratiques, qu'on ait prétendu affirmer avec un matraquage médiatico-politique qu'il fallait faire des choses dont on savait à l'avance qu'elles seraient inutiles et dommageables. Et puis, si effectivement l'hypothèse de la maladresse a pu prévaloir pendant un certain temps, se dire non, quand les choses sont imposé de manière aussi violente et brutale et totalitaire pendant 4 ans, bah évidemment, ça sort pas d'un chapeau, c'est bien qu'il y a une intention autre derrière.
Et c'est là où finalement, au tout début du confinement, on a commencé à voir circuler les théories de Clochefabre, le forum de Davos. Mmh. Certains ont travaillé là-dessus, ont été qualifiés de complotistes. Mmh. Et c'est les complotistes de l'époque qui avaient dit, vous allez voir, il va y avoir une vaccination quasi obligatoire avec un pass sanitaire. Ils avaient décrit un peu, comme George Orwell l'avait fait, le pass sanitaire, et on les avait traités de complotistes. Et oui. Puis finalement, on a vu que ça a été la réalité. Mais on a continué de les traiter de complotistes.
Oui, ça fait partie de...
Psychologiquement, comment vous expliquez cela ? On aurait pu leur dire, finalement, vous vous êtes pas trompés.
Oui, mais ça fait partie de l'arsenal de propagande. Donc je me permets de revenir encore une fois en arrière. En février 2020... les lockdown files en Angleterre, donc les SMS échangés entre le ministre et les experts l'ont révélé. Le ministre britannique de la Santé reçoit l'information, la mortalité du Covid n'est pas suffisamment grave pour envisager une vaccination généralisée de la population. Février 2020 en France, Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur, dit la létalité du Covid est inférieure à celle de la grippe. Donc, comprenez bien, en février 2020, les systèmes étatiques savent que c'est une épidémie relativement bénigne et qu'il suffit de soigner les gens pour qu'il n'y ait pas de problème majeur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On crée les conditions d'un désastre sanitaire en empêchant les généralistes de soigner et en confinant la population. Et puis, on entretient une psychose collective avec des messages très anxiogènes qui font croire que nous sommes face à quelque chose d'aussi grave que la grippe espagnole. Et donc, on a terrorisé la population pour qu'elle se soumette à tout l'arsenal de mesures de contrainte. Et évidemment que d'emblée, tous ceux qui ont essayé de rappeler les données, la vraie science, les bonnes connaissances, se sont fait attaquer comme étant des complotistes. Mais ce qui est un ressort de propagande, vous le savez probablement comme moi, qui est utilisé depuis une quarantaine d'années et dont l'origine remonte à l'assassinat du président Kennedy. La CIA avait peur que les journaux contestent le rapport d'enquête officiel, qui par ailleurs est impossible, et donc leur ont donné l'instruction de coller l'étiquette de complotiste à tous ceux qui contestaient le rapport. Et depuis, c'est devenu une arme de propagande. Et donc, à nouveau, il ne s'est pas agi d'une erreur de bonne foi qu'on pouvait rattraper par la suite. Il y a eu une intention délibérée de pousser nos sociétés dans cette direction. Alors, vous mentionnez le Forum économique mondial, je dirais qu'il y a deux hypothèses en présence. La première, elle est sûre. À l'heure actuelle, il y a eu un hold-up, ça a été le titre d'un film, mais des finances publiques qui a attribué à peu près 100 milliards de dollars à l'industrie pharmaceutique en faisant croire que seul le vaccin, qui n'en est pas un, ça n'immunise pas, mais le pseudo-vaccin contre le Covid était la solution. Et ça... Je dirais que c'est des procédés que l'industrie pharmaceutique a l'habitude d'utiliser. Donc on sait que l'Union européenne a acheté beaucoup trop de doses, que les négociations étaient secrètes, qu'on a littéralement rançonné les États sur cette base-là. Donc il y a une opération crapuleuse criminelle. Bon, ça c'est connu et c'est même assez classique. La deuxième hypothèse qui reste ouverte, c'est qu'on a vu que ça a été l'occasion de suspendre un ensemble de libertés et effectivement d'avancer rapidement dans la direction de l'identité numérique et de la monnaie numérique centralisée qui sont les prémices du contrôle social, et avec des acteurs comme le Forum économique mondial qui disent ouvertement vouloir acquérir une gouvernance mondiale. Klaus Schwab l'a dit, à quoi bon voter si on connaît le résultat à l'avance ? Et des élites comme nous et les banquiers sont mieux placés que les peuples pour savoir ce qui est bon pour eux. Donc, quand on rassemble toutes les pièces du puzzle, on se dit qu'effectivement, il faut être vigilant à cette hypothèse. Alors, il n'y a pas de certitude à ce stade.
Mais vous dites bien être vigilant, Jean-Dominique Michel. Vous employez le mot vigilance.
Voilà. Il peut y avoir un coup d'État mondialisé en cours.
Je vous retrouve avec l'anthropologue Jean-Dominique Michel, expert en santé publique, pour son livre « Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid ». Certains vont me dire « Eh oui, vous en reparlez encore, mais c'est fini, c'est terminé, vous n'allez pas nous reparler de ça des années et des années plus tard ». Mais d'abord, c'est loin d'être fini, Jean-Dominique Michel, je parle sous votre contrôle, parce que d'abord, ceux qui disent ça oublient qu'ils vont encore payer toute leur vie des impôts et des taxes pour financer tout ce qu'il y a, tout ce quoi qu'il en coûte. Donc toute votre vie, vous allez payer. Donc moi, quand on met une dette sur la dette, sur la tête pendant toute ma vie, je n'oublie pas, non. Les entreprises payent avec les remboursements de ce qu'on appelle le PGE. Elles continuent. Beaucoup sont en train de partir à la faillite à cause de ce PGE. Donc on n'est pas prêt de lâcher l'affaire non plus. Et le troisième point qui est aussi important, c'est que tout cela a préfiguré finalement un système de contrôle de la population et d'acceptation d'un système à la George Orwell, à travers notamment le pass sanitaire. J'ai parlé sous votre contrôle, Jean-Dominique Michel. Vous êtes d'accord?
Vous êtes fort aimable, mais je n'ai pas de contrôle à exercer sur qui
que ce
soit.
Non, mais je n'ai pas dit de bêtises, je ne pense pas, voilà, sur les trois points.
Non, effectivement, les constats figurent dans le livre, et vous avez raison de le mentionner. En fait, à travers ces mesures absurdes et inutiles qui ont été passées, et je rappelle que la Suède, qui n'a jamais verrouillé, confiné, imposé de fermeture, est sortie avec une croissance de l'année 2020. Là où tous nos pays, évidemment, ont eu une contraction et un endettement qui a absolument flambé. Et donc, toutes ces mesures absurdes ont littéralement conduit et sont en train de conduire à une destruction des forces vives de la société. Le nombre de faillites n'a jamais été aussi élevé, et principalement chez les auto-entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, les artisans, la restauration et le commerce de détail. Donc, on est vraiment en train de saccager les forces vives de la société comme conséquence de mesures qu'il n'aurait jamais fallu prendre. Donc ceci est tout à fait vrai. Le contrôle, les progrès du contrôle, on le voit en permanence. Je rappelle par exemple que le secret médical garantit en principe que seul votre médecin et vous savez si vous avez reçu un traitement, une injection, un vaccin. Donc tout d'un coup, c'était posé sur la place publique. Et puis on voit cette dérive. Donc aujourd'hui en France, Dieu merci, c'est pas le cas en Suisse, je suis franco-suisse, mais quand vous allez retirer 1000 euros en liquide à votre banque, on vous demande pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Non mais imaginez, ça c'est le genre de chose qui encore 30 ou 40 ans en arrière aurait fait dresser les cheveux sur la tête de quiconque. En quoi votre banque a-t-elle besoin de savoir à quel usage vous utiliserez le liquide, les espèces...
Au nom de la lutte contre le terrorisme, et on se doute bien que les terroristes ont d'autres moyens d'avoir 1000 euros.
Oui, et puis c'est toujours le même truc. On dit que c'est pour la lutte contre le trafic de drogue, la prostitution et le terrorisme, mais il n'y a jamais eu autant de terrorisme, de trafic de drogue et de prostitution. Donc en fait, ça consiste à réserver ces activités criminelles aux bons acteurs et puis à surveiller la population d'une manière qui est déjà totalement orwellienne.
Alors, depuis la sortie de votre livre, il y a quand même un fait nouveau, Jean-Dominique Michel, il y a cette fameuse étude sur évidemment, l'hydroxychloroquine qui aurait entraîné 17 000 décès prématurés.
Oui, c'est aussi le deuxième terme du sous-titre, hein, mensonge et corruption autour du Covid. Et là encore, la plupart des gens l'ignorent, il se trouve que je suis un bon spécialiste de cette question, mais que aujourd'hui, la production de science et la pratique médicale sont totalement corrompues par de la fraude et aux besoins de l'escroquerie. Donc, si vous voulez, l'étude qui vient de sortir, c'est l'équivalent du Lancet Gate, tout le design de recherche, c'est-à-dire la manière dont l'étude est construite. Parce qu'effectivement, une étude, c'est quoi? C'est qu'on puise dans des données pour essayer de comprendre des phénomènes. Et là, tout le design de l'étude, alors il y a l'élément, le volet que vous mentionnez, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais donc, c'est un design qui est fait pour arriver à un résultat qui, dans les faits, est impossible. Imaginez, si 17 000 personnes sont mortes à cause d'avoir pris de l'hydroxychloroquine, alors que c'est un remède qui, certaines années, a été prescrit à des milliards d'individus, on aurait dû avoir des millions de morts à l'époque comme résultat de cette prescription, et c'est juste impossible. Donc effectivement, ils utilisent ce surdosage qui a été proposé dans certaines études, mais après, il y a toutes sortes d'entourloupes. Et ce qu'il faut savoir, le grand public ne le sait pas, c'est que c'est monnaie courante dans la production soi-disant scientifique. Donc c'est un domaine qui aujourd'hui est ouvert à toutes sortes de fraudes et d'escroqueries. J'en nomme les principes dans mon livre, j'en donne un certain nombre d'exemples. Je pense que cette étude-ci sera rétractée dans quelques semaines ou quelques mois. Par contre, ça a l'impact sur l'opinion publique souhaitée. Vous avez vu que la presse unanime a monté en épingle cette étude bidon.
Mais l'opinion publique ne retient que le professeur Raoult est un charlot, finalement.
C'est ça. C'est ça, et les complotistes avaient tort, on vient de prouver que l'hydroxychloroquine était bel et bien très dangereuse. Et donc ce sont de nouveau des opérations de manipulation et de propagande à grande échelle. Ce qui fait peur toutefois, c'est que les médias de masse unanimes réagissent tous de la même manière, sans esprit critique, sans contre-argument, sans chercher à savoir ce qu'il en est. Donc on voit malheureusement qu'il y a aujourd'hui une captation des médias, mais bon, on sait qu'ils sont subventionnés massivement par l'État, c'est-à-dire par vos impôts, pour ne dire des choses qui ne sont que conformes à ce que prétend l'État, même si c'est faux.
Que faut-il... Alors, on n'en a pas fini avec cette affaire du Covid, mais est-ce que ça préfigure finalement, est-ce que tout cela a préfiguré un système de contrôle global de la population ?
Ben c'est le risque, vous voyez, par rapport à ce sentiment, mais que je comprends, je le partage aussi, de beaucoup de gens qui disent « mais bon, voilà, passons à autre chose, on s'est ennuyé pendant 3 ans ». Mais si on ne fait pas le bilan honnête, intègre, rigoureux de ce qui s'est passé, ça veut dire qu'il est impossible de tirer les enseignements de ce qu'on a vécu pour la suite. Or, jamais nos libertés n'ont été aussi suspendues, supprimées, réprimées qu'au cours des 3 années passées, donc... Je ne vois pas comment on ferait l'économie de nous demander est-ce que c'était légitime, est-ce que c'était utile, est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et si ça n'est pas le cas, comme je le démontre de fond en comble dans mon livre, comment expliquer que l'État, les sociétés médicales, les hôpitaux, les agences de santé internationales nous aient menti en nous affirmant tout un ensemble de choses dont, accessoirement, tout le monde se rend bien compte que c'était faux. Tous vaccinés, tous protégés, ça a quand même été le slogan du ministère de la Santé en France. Est-ce que les gens qui ont été vaccinés étaient protégés et protégeaient les autres ? Non. Donc, tout le monde peut le voir. Et donc, moi, je pense qu'il y a...
Beaucoup ne seront pas d'accord avec vous, hein, vous le savez. Il y a 70%, 80%, 60%, enfin, peu importe, une partie importante de la population qui va vous dire encore qu'ils ont été vaccinés, donc protégés.
Oui, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité des faits et parce que justement, les médias s'acharnent à ne surtout pas permettre à l'opinion publique de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment un thème de société. Moi, je trouve que le rôle des médias de masse est devenu vraiment toxique pour la démocratie et pour la science. Donc voilà, si les gens pensent quelque chose de faux, ben, je comprends que ça oriente leur comportement et leur conviction, mais ça reste faux. Et effectivement, et d'ailleurs aujourd'hui, même Jean-François Delfraissy, ancien président du Conseil scientifique, reconnaît, on s'est trompé, ça ne protégeait pas. Bon, ben voilà, il y a un moment donné où il faut quand même précisément mettre un petit peu les compréhensions à jour. Et donc, moi, mon sentiment, c'est que la crise que nous avons vécue, qui était donc auto-fabriquée, hein, qui était produite artificiellement, contient probablement le prémisse des pires menaces pour l'avenir, sachant que nos gouvernements utilisent des crises les unes après les autres pour pousser la population à renoncer à l'exercice de ses droits et libertés constitutionnelles et fondamentales.
Et enfin, j'ai une dernière question. Alors, comment se fait-il que les principaux partis politiques, je ne parle pas de Florian Philippot, voilà, je parle de ceux qui sont présentés à l'Assemblée nationale, se soient tous mis du même camp, finalement, y compris le Rassemblement National, y compris Reconquête, Éric Zemmour. Vous êtes suisse, mais vous connaissez bien la sociologie politique française. On peut dire qu'il n'y a qu'une partie de la France insoumise qui était vraiment aussi insoumise sur cette question. Mais ces gens-là, même le Rassemblement National était du côté d'Édouard Philippe.
Ouais. Mais je vois trois facettes à la réponse. La première, c'est qu'il y a quand même une corruption des partis politiques. On sait que le Parti Socialiste, par exemple, a touché d'énormes sommes de Pfizer. C'est de notoriété publique, ça remonte à l'affaire Cahuzac. Donc, il y a de toute manière...
On ne peut pas dire que le Rassemblement National ait touché de l'argent des laboratoires.
Pas tous. Et je vous renvoie au récent sondage de Transpiracy Watch qui montre que 87% des Français sont convaincus que leur classe politique est corrompue. Donc la corruption, c'est un énorme problème dans notre société et ça participe parce que les compagnies pharmaceutiques comme les fondations Gates arrosent tout le monde. Les médias, les partis politiques, les hôpitaux, les centres de recherche. Donc c'est un problème, qu'on le veuille ou non. Le deuxième élément, c'est que je pense que la réalité de la manipulation que nous avons subie est impensable pour la plupart des gens. Et je l'entends souvent, les gens me disent « mais je ne peux pas imaginer que mon médecin m'ait poussé à me faire vacciner avec un produit dangereux. Je ne peux pas envisager qu'on nous ait confinés et fait porter des masques alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc, je pense que c'est très difficile pour la plupart des gens, et la classe politique en particulier, d'ouvrir les yeux sur la réalité de qui détient le pouvoir aujourd'hui et de jusqu'où il est possible d'abuser et de truander la population. Et puis, troisième élément de réponse, j'en ai fait l'expérience, mais j'ai été loin d'être seul, c'est que tous ceux qui ont osé, excusez mon français, ouvrir leur gueule, s'en sont pris plein la gueule. Donc, après, on a aussi fait des exemples pour montrer ce qui arrivait aux malheureux qui osaient dire « Écoutez, moi je ne suis pas d'accord, je crois que c'est pas honnête ». Vous voyez ce que je veux dire ? Le potentiel de destruction en face était tellement violent que la plupart des… Là, on pense aux politiciens qui quand même pensent à leur réélection et à leur carrière, même s'ils avaient des convictions en ce sens, n'ont pour la plupart pas osé prendre la parole publiquement.
Eh bien, merci Jean-Dominique Michel. Merci d'avoir fait ce tour d'horizon à travers votre livre Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid. Comment et pourquoi ils ont fait tout faux et à quand leur mea culpa? Alors là, le mea culpa, je pense que, comme on dit en langage un peu plus, allez, un peu plus terre à terre, on va aller se brosser pour le mea culpa ou on peut l'espérer un jour?
Non, et vous savez, le professeur Martin Zizi, qui est l'ancien médecin-chef des forces armées belges, qui vraiment porte des analyses somptueuses sur le Covid, lui dit quelque chose de très juste. Il dit qu'ils sont dans une impasse totale, parce que s'ils admettent la réalité de ce qui s'est passé, ils sont morts politiquement. Mais s'ils continuent à chercher à le cacher à tout prix, ça va de toute manière apparaître au grand jour, tôt ou tard, et donc c'est aussi une manière de se suicider politiquement. Donc, pour l'instant, tout le monde se tient par la barbichette. Évidemment qu'il n'y aura pas de mea culpa ou alors très timide, mais ce qu'il faut surtout espérer, c'est que les tribunaux, à un moment donné, s'emparent de l'affaire. Aux États-Unis, par exemple, le procureur général du Texas a porté plainte contre Pfizer pour tromperie de la population mettant en danger sa santé. Donc, je pense que c'est plutôt par la voie judiciaire, mais la justice en France, malheureusement, est très aux ordres du politique, qu'à un moment donné, les choses pourront s'ouvrir.
Merci Jean-Dominique Michel. Je rappelle le titre de votre livre, Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid. Vous êtes spécialiste des questions de santé, anthropologue, expert en santé publique. Merci.
Merci à vous.